الشرقية عيونا روزية حبك من قلبي يا انتي عيني حبك من قلبي يا انتي عيني بنت الشرقية عيونا روزية حبك من قلبي يا انتي عيني
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes sur Radio Galère 88.4 et nous démarrons l'émission Une heure en Palestine, programmée tous les mercredis de 18h à 19h et qui est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13, branche locale de l'association France-Palestine Solidarité qui anime l'émission. Donc, je suis Jean-Yves, je suis avec Bernard. Bonjour Bernard.
Bonjour Jean-Yves.
Et donc, la technique est assurée par Sidi, merci à lui. Si vous désirez avoir... Excusez-moi, j'ai oublié que donc, Bernard représente aussi BDS Provence, branche locale du mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Pour sanctionner Israël contre tous les crimes qu'il commet. Voilà. Si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales, vous pouvez consulter le site internet www.assopalestine13.org. Il existe aussi une page Facebook Palestine 13, une page Facebook BDS Provence aussi. Et donc, vous avez des adresses mail asso.palestine13@gmail.com et je ne me souviens plus de l'autre, mais ça doit être bdsprovence@gmail.com aussi, non ? Ou... Bon, on ne dira pas, puisqu'on ne sait pas. Voilà. Donc, on aura l'occasion de passer quelques musiques. J'en avais programmé lors de notre dernière intervention, il y a un mois de ça. C'est d'un album qui s'intitule Intifada 1987, qui avait été écrit par Riyad, Anan, Alia et Nariman, qui ont enregistré un album sur du matériel qu'ils avaient fabriqué. Et il y a un morceau qui a été coécrit avec le célèbre écrivain palestinien Mahmoud Darwish. Donc il avait imprimé des cassettes et donc aujourd'hui, alors il est décédé en 2005, hein, Riyad. Par contre, donc aujourd'hui, cet album est sorti parce qu'il y a quelqu'un qui a récupéré tout ce matériel qui existait. Donc on écoutera deux ou trois morceaux en fonction du temps dont nous disposons. Alors, petit rappel, il existe donc sur le site Palestine 13 une rubrique Agenda. Et dans cette rubrique Agenda, n'oubliez pas que vous pouvez trouver l'ensemble des manifestations, en général locales, mais pas uniquement, qui concernent directement la Palestine. Mais pas toujours. Par exemple, je sais que le 25 mars 2022, donc à 18h, il y a un film sur les mémoires plurielles de la guerre d'Algérie. Mais tout ce qui concerne la colonisation nous concerne aussi. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas de consulter sur le site assopalestine13.org l'agenda et les différents articles qui y sont. En particulier, donc, le 21 mai est organisée à Marseille une conférence, une grande manifestation concernant l'écologie, la disponibilité de l'eau, etc. Et dans l'agenda, vous trouverez un lien vous permettant d'aller fournir une aide à tous ceux qui organisent une aide financière à tous ceux qui organisent cette manifestation, puisque on a besoin on va faire venir un certain nombre de personnes de Gaza, de Cisjordanie aussi, et donc les billets d'avion pour venir chez nous coûtent relativement cher. Donc voilà, si vous voulez aider et participer, vous trouverez le lien dans la rubrique agenda vers le site Hello Asso où vous pourrez participer. Alors, petite remarque avant de commencer, pour dire qu'on va parler, on ne va pas parler que de Palestine, mais on va parler de la guerre que la Russie mène au peuple ukrainien. Et en fait, c'est plus pour faire une comparaison entre deux situations que l'on va parler de l'Ukraine. Hein, puisque
et c'est, mettre en exergue c'est pas, le deux poids, deux mesures.
Deux poids, deux mesures.
Voilà.
Tout à fait. Donc, en fait, depuis 2007, bien avant, en 1997, l'OTAN s'est étendue vers l'Est et la Russie, depuis, prévient les Occidentaux que ça ne peut pas se faire sans tenir compte de ses intérêts. Et l'OTAN, pour moi, avec mon passé un peu militant, antimilitariste, adhérent à l'Union pacifiste de France depuis plus de 40 ans, effectivement, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. L'OTAN, en fait, aurait dû disparaître après 1991. Et par contre, tout ce qu'elle a continué à faire, c'est préparer ou faire la guerre. Et en l'occurrence, ici, on se rend bien compte que le slogan « Si tu veux la paix, prépare la guerre », en fait, c'est une connerie monstrueuse. On ferait mieux de s'attacher à dire « Si tu veux la paix, prépare la paix ».
Faire la guerre à la guerre.
Faire la guerre à la guerre, voilà. Mmh. En fait, donc, il y a eu par l'OTAN un certain nombre de conflits qui ne la concernaient pas ou qui ne devaient pas la concerner. Et donc les Balkans, l'Irak, la Libye, le Yémen. Et ces interventions se sont faites sans mandat de l'ONU, c'est-à-dire en violation du droit international. Le droit international, c'est la base de la vie entre les peuples, entre les États, plutôt, au niveau de la Terre. Et du coup, si on regarde ce qui s'est passé concernant la Palestine et Israël au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU qui a fait un certain nombre de résolutions, on peut noter la résolution 181 en 1947 sur le partage de la Palestine qu'Israël n'a pas respectée malgré le fait que les Juifs étaient très avantagés. Ils représentaient 35% de la population de l'époque, 7% du territoire qu'ils avaient acheté à l'époque, hein, et ils ont reçu de l'ONU 56% de la Palestine mandataire. Ensuite, il y a eu les affrontements, la Nakba, où ils ont chassé les Palestiniens. Ils se sont battus contre les armées arabes aussi. Et à la fin des affrontements, Israël possède 78% de la Palestine. En 1948, résolution 194, qui demande le retour des réfugiés palestiniens qui ont été chassés de leurs terres par les armées israéliennes. Donc, c'était ce que les réfugiés palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe. Donc, les résolutions précédentes n'ont pas été respectées. Malgré cela, Israël est admis à l'ONU en 1949. Donc, il fait pas ce qu'on lui demande. Malgré ça, on lui donne encore des avantages. En 1967, résolution 242, Israël doit se retirer des territoires occupés lors de la guerre des six jours, ce qu'il n'a jamais fait. Résolution 338, donc ça c'était en 1973, donc il y a eu la guerre du Kippour. Israël doit rendre à la Syrie et à l'Égypte les territoires qu'il a conquis pendant cette guerre. Il avait attaqué, sans prévenir, donc soi-disant parce qu'il était attaqué lui-même, il avait attaqué la Syrie et l'Égypte.
Non, mais ça s'appelle la guerre du Kippour parce que eux qui ont attaqué pour une fois. C'est parce que, justement, comme c'était le Kippour, ils étaient tous en prière, oui, et que l'armée égyptienne, d'accord, en a profité pour dire on arrive.
Pourquoi pas. En fait, on demandait à Israël de rendre les territoires occupés. Il a rendu à l'Égypte le Sinaï depuis, mais par contre, il n'a pas rendu le plateau du Golan à la Syrie. Et même pire, il l'a carrément annexé et il le colonise depuis. Donc il y a eu d'autres conflits depuis, d'autres résolutions depuis, qui concernent l'attitude d'Israël envers les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, ou le Liban. Mais toutes ces résolutions sont restées sans application. Et en fait, sur environ 35 résolutions plus ou moins importantes, il y en a 6 qui concernent directement Israël, qui a été soutenu sans défaut par les USA. Et à ce jour, aucune sanction n'a été prise contre Israël. Tu voulais dire quelques mots à propos
J'ai retrouvé, moi, un texte paru en mai 1999 de Noam Chomsky, le grand linguiste et philosophe américain. Et alors lui, il avait intitulé cet article « L'OTAN, maître du monde ». Et il raconte qu'ils se sont réunis à Washington pour le 50e anniversaire de l'OTAN. Donc, les pays membres ont, le 26 avril, entériné le nouveau concept stratégique proposé par les États-Unis. Hier, défensive, ce que tu disais tout à l'heure, l'OTAN pourra intervenir militairement sans mandat des Nations Unies contre un pays souverain. Si la référence à l'ONU satisfait la diplomatie française, elle ne nuance que pour la forme l'hégémonie américaine. La guerre dans les Balkans, engagée sans autorisation du Conseil de sécurité, au nom de l'ingérence humanitaire, oui, je me rappelle très bien de ça, et ce nouveau concept stratégique marque un tournant dans l'ordre mondial. La seule légalité internationale, celle des Nations Unies, est pour la première fois depuis 1945 mise à bas par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, moins la Russie, sans que nul autre ne la remplace, autorisant désormais la Chine, l'Inde ou la Russie, par exemple, à conduire dans leur zone d'influence des interventions semblables à celles de l'Alliance, multipliant partout les risques d'injustice et de conflits.
Il annonçait ce qui est en train de se passer.
Voilà, oui, en gros, c'est ça.
D'accord. Par rapport donc à cette invasion de l'Ukraine par la Russie et la réaction que ça provoque dans nos pays, pays occidentaux, ça fait vraiment une réaction surjouée et qui est un peu incompréhensible si on se réfère à d'autres guerres. Sans aller trop loin dans le passé, prenons ce qui s'est passé à Gaza. À Gaza, se sont déroulées 3 guerres. En 2008-2009, opération Plomb durci. En 2012, opération Pilier de défense. En 2014, opération Bordure protectrice. Dans toutes ces guerres, des populations civiles ont été les premières victimes des bombardements israéliens dans un territoire minuscule contenant 2 millions d'habitants. Et là, les habitants n'avaient aucune possibilité de fuir hors des combats, malgré le différentiel d'armement entre le Hamas qui était à Gaza et Israël. Donc, ils n'avaient aucune possibilité de fuir parce que Israël, aidé par l'Égypte, applique un blocus complet à Gaza.
Plus le blocus maritime, si jamais il y en avait qui avaient envie de prendre un bateau et de partir par la mer.
Dernièrement, ils ont terminé une clôture terrestre tout le long de la frontière qui a coûté un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Voilà, à ce jour, donc, je ne suis pas sûr que, effectivement, du côté Ukraine et OTAN, on ait fait tout ce qu'on a pu pour éviter cette guerre. Et pareil pour les pays occidentaux. Peut-être il aurait suffi que l'Ukraine dise « je reste neutre ». Peut-être il aurait suffi que Macron il dise « on refusera de toute façon l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ». Ce que je ne sais pas trop, c'est est-ce que un pays, quand il rentre dans l'UE, il doit rentrer dans l'OTAN ? Je ne pense pas.
Donc, non, pas du tout.
Voilà,
non.
On peut très bien accepter l'Ukraine dans l'UE sans l'accepter.
Mais Zelensky, au début de son...
C'était un pouce au crime, lui.
Non, lui, il était aussi pour la neutralité. Mais bon, après, il a fait quand même quelques gaffes en reconnaissant, comme Trump l'a fait, la capitale éternelle d'Israël étant Jérusalem. Donc ça, je pense que pour nous, c'est une bavure, c'est un truc... Voilà, donc c'est quand même... je ne savais pas que c'était un sioniste de première catégorie.
J'ai quand même l'impression que c'est un peu un va-t-en-guerre. Alors, est-ce que c'est surjoué ? Parce que quand on voit aux informations des civils, des mamies même, presque, à qui on donne un fusil ou un truc en bois pour leur apprendre à se battre, mais on va les mettre contre des chars russes ? Non, mais c'est les envoyer à la mort, là.
C'est pas ça. C'est que ce qu'on va leur mettre dans les mains, enfin à tous ceux qui sont valides et volontaires, c'est pas des AK-49. Hein, ce qu'on leur donne, c'est des trucs anti-char et des trucs anti-aériens. Et ça, la manipulation, c'est très simple. C'est pas. C'est, ouais. Tu et comme sais, les exocètes français, le
non, mais
la
on
cible...
Va, on ne va pas donner... On a vu, j'ai vu des images de civils à qui on apprenait, oui, soi-disant, à se battre. Non, oui, mais ce n'est pas des civils, sûr, qui vont aller résister contre des chars. C'est à l'armée de le faire. Oui, mais l'armée, mais... maintenant, elle est dans les... Bon, en fait, bon, arrêtons, oui, de parler de l'Ukraine, parce, oui, qu'effectivement, voilà.
Voilà.
Juste une dernière remarque. On comprend ce qui arrive, on peut comprendre qu'on soit plus touché par ce qui arrive à nos proches, qu'il y a des gens qui se trouvent au bout du monde. Mais la situation et les commentaires que l'on entend aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment du racisme.
Oui, mais...
Parce que il y a un traitement totalement disproportionné qui est appliqué d'un côté aux Ukrainiens, alors que l'on appelle réfugiés, et les Syriens et les Africains, on les appelle des migrants.
Non,
et puis on leur donne pas les mêmes...
De ceux qui viennent d'Ukraine, insiste, parce que...
Oui.
Non, il faut dire que c'est la même migration, oui, qui, oui, sort d'Ukraine, mais il y a des Africains d'un côté, oui, et des
autres. Et on fait le tri à la frontière polonaise.
On fait le tri à la frontière, et même il y en a qui sont allés en Israël, et ça a mis un pataquès énorme, oui, parce qu'ils ont dit, mais nous, on n'en veut pas de ces gens-là.
Ben, oui.
Alors il a fallu qu'ils fassent authentifier leur présence, qui est quelqu'un qui paie une caution, oui, pour dire si c'est de la famille, d'abord. Mmh. Alors la famille, ça se comprend. Mais après, il fallait qu'il trouve, le migrant devait trouver quelqu'un dans la population qui accepte de verser, je crois, 3000 euros comme caution de sa présence là, à condition qu'il s'en aille dès que la guerre était, ouais, finie. Voilà, oui. C'est-à-dire qu'imagine que la guerre dure 10 ans, le type, il s'installe, il a commencé à travailler, il fait ouais, ses affaires, il fait un petit magasin de quelque chose. On lui dit, maintenant, vous dégagez, ce qui arrive très fréquemment en France. Hein.
Ouais. Et d'ailleurs, en France, ce matin, j'ai entendu une information comme quoi la mère de Calais, bon, on sait qu'à Calais, il y a beaucoup de réfugiés, donc qui dorment dans des tentes, hein, dans les dunes et sous des tentes, elle a ouvert un bâtiment qui était inutilisé, qui était disponible pour les réfugiés ukrainiens.
Ukrainiens, oui.
Uniquement ukrainiens, oui, oui.
Les autres, on les sort de leur tente, on ouvre un peu la tente et on secoue la tente comme si c'était un sac de pommes de terre. J'ai vu ça l'autre jour, c'était épouvantable.
Voilà. On leur déchire.
On déchire et après on les secoue pour qu'ils tombent de la tente parce que c'est fermé, ouais, c'est comme un sac.
Donc voilà, alors juste une dernière remarque, pas tout à fait liée à ça, mais en Israël, donc, il y a beaucoup de maisons palestiniennes qui sont détruites par l'armée et voire parfois par les gens qui habitent ces maisons eux-mêmes parce que l'armée le leur a ordonné et que s'ils ne le font pas, il faudra qu'ils payent donc beaucoup plus cher à l'armée.
Tu veux dire des Palestiniens qui habitent et qui se font...
Voilà, des Palestiniens.
Dit, démolissez vous-même.
Voilà, on leur a dit, vous n'avez pas de permis de construire. Il faut savoir qu'un permis de construire à des Palestiniens, Israël les délivre au compte-gouttes. Et donc voilà, aussi, il y a des destructions d'écoles, d'infrastructures plus importantes et qui parfois même sont payées par l'Union européenne. Et
qui ne dit jamais rien.
Qui ne dit jamais rien. Ben non,
il renvoie un chèque pour dire reconstruisez, soyez voilà, sympa.
Et donc j'ai trouvé dans des blogs de Mediapart, il y a quelqu'un qui a fait un petit blog concernant le préfet de Mayotte. Mayotte, c'est la France depuis un certain... référendum là-bas. Et donc le préfet de Mayotte a été condamné par le juge administratif parce qu'il fait démolir des quartiers pauvres. Malgré cette condamnation qui abrogeait l'arrêté, il en a décrété aussitôt un tout nouveau, tout aussi litigieux contre les mêmes habitants. Il détruit sans retenue au nom de règlements propres à la France hexagonale que les autorités veulent imposer envers et contre tout. Des règlements propres à la France hexagonale, c'est par exemple les problèmes d'isolation, des trucs comme ça, et ils profitent de toutes les occasions pour faire détruire et ils veulent renvoyer les gens chez eux.
Oui, mais à Mayotte, donc, voilà. À Mayotte, il y a un vrai problème, c'est que oui, au moment de l'indépendance ou pas l'indépendance, oui, il n'y a que Mayotte qui s'est affirmé, oui, oui, comme étant dans la République française.
Tout à fait.
Je mets des guillemets. Hein. Oui. Bon, en juin, ils ont dit non, nous, on ne veut pas, on reste chez nous, on est indépendant. Bon, vu ce qui se passe, ce qui s'est passé ensuite, ils arrivent, ils prennent le bateau, ils arrivent à la nage. Les femmes, certaines femmes vont accoucher,
accoucher en France,
sur l'île, pour que leur gamin ait la nationalité. C'est-à-dire qu'on arrive à un truc de folie quand même. Ouais. Et donc ça, c'est d'une certaine façon, c'est ingérable.
C'est ingérable, mais c'est pas comme ça qu'on.
Non, mais c'est pas avec un préfet qu'on règle le problème.
Voilà.
On règle le problème en faisant d'abord une conférence où on dit « Mesdames, messieurs, asseyez-vous, on va voir où est le problème. »
Et puis on peut aider les autres régions qui ont des problèmes, les autres îles qui ont des problèmes.
Messieurs, ils n'ont pas choisi d'être dans la France, voyons, mais voyons, franchement.
Ouais. Donc voilà, on va peut-être passer un premier morceau de musique. Et puis, on parlera après d'un article de Ilan Pappé, historien israélien.
Ya Watani, Ya Watani, سماؤك نار وأرضك حرارة تتفجر من عمق بركاني. إني أسير إليك وأبحث عن نهاية الطريق ولن أصلها حتى يتفجر في عمقي بركان أكبر حتى تصير دمائي غصنا أخضر يحمل مشعلا ليدق بابا أحمر الثورة الشعبي بعلنا حركي ثوري أنا ابن الثورة الشعبي بعلنا حركي ثوري في كل ميدان وفي كل حرب حرب الشوارع ما يسدي في كل ميدان وفي كل حرب حرب الشوارع ما يسدي ببني بلدي بزرع أرضي ببني بلدي بزرع أرضي من أجل الحرية احنا اللي خلقنا الثوري في ظل القوة الرجعي احنا اللي خلقنا الثوري في ظل القوة الرجعي حتى نحقق التغيير كل القطاعات الشعبية حتى نحقق التغيير كل القطاعات الشعبية ببني بلدي بزرع ارضي ببني بلدي بزرع ارضي من اجل الحرية أعلنا الحرب الشعبي ضد الحركة الصهيوني أعلنا الحرب الشعبي ضد الحركة الصهيوني حتى نبني الاشتراكي نضحار الإمبريالي حتى نبني الاشتراكي نضحار الإمبريالي ببني بلدي بزرع أرضي ببني بلدي بزرع أرضي من أجل الحرية هدموا بيتي وصادروا أرضي قتلوا طفلي وشردوا شعبي هدموا بيتي وصادروا أرضي قتلوا طفلي وشردوا شعبي حجزوا كل مناطل الثور هل في القضبان الحديدي حجزوا كل مناطل الثور في القضبان الحديدي ببني بلدي بزرع أرضي ببني بلدي بزرع أرضي من أجل الحرية I أعلن الحرب الشعبي ضد الحركة الصهيوني أعلن الحرب الشعبي ضد الحركة الصهيوني حتى نبني الاشتراكي إدخار الإمبريالي حتى نبني الاشتراكي إدخار الإمبريالي ببني بلدي بزرع أرضي ببني بلدي بزرع أرضي من أجل الحرية.
Faire une lecture d'un petit article, un profilé de Politis.
De Politis, du journaliste de France 24, Tahar Rami, qui était en Ukraine et qui raconte cette petite anecdote qui dit bien ce qu'il se passe sur le terrain. Fuyant Kharkiv, où les combats sont particulièrement violents, Mustapha et son frère ont été bloqués pendant 4 jours dans la gare de Lviv, après avoir été refoulés à la frontière polonaise. Les Polonais nous ont dit que les Noirs ne rentraient pas, qu'il n'y avait plus de place pour les migrants parce qu'ils en ont accueilli beaucoup. Au même moment, des réfugiés blancs passaient. D'après lui, une délégation guinéenne avait fait le trajet côté polonais jusqu'à la frontière avec l'Ukraine, mais n'a pas réussi à négocier leur passage. Les Polonais aurait exigé la venue d'un bus juste pour eux. Voilà, ça veut dire que même quand on dit on va les transporter, il faut qu'ils soient dans un bus. Là, c'est un peu l'apartheid.
Ouais, complètement, oui, voilà. Parce qu'on sépare effectivement du blanc des noirs. Alors, on va parler d'un article qui s'intitule « Guerre en Ukraine, une humanité et une compassion à géométrie variable » qui illustre bien ce que tu disais tout à l'heure, le deux poids deux mesures. Donc, ça a été écrit par Ilan Pappé. Ilan Pappé, qui est donc un historien israélien. Et parmi les livres qu'il a écrits les plus emblématiques, c'est « Le nettoyage ethnique de la Palestine », où il a démontré la volonté à l'époque, en 1948, par Israël, de faire un nettoyage ethnique et d'expulser un maximum de Palestiniens de chez eux. Donc, ce que les Palestiniens ont appelé la Nakba. Il faut, faut quand même dire que ce nettoyage ethnique continue de nos jours, puisque autour de Jérusalem, on cherche à expulser les gens en détruisant leurs maisons, en laissant les colons les leur voler, etc.
Et cette affiche que j'ai vue brandie lors d'une manifestation à Jérusalem, où dessus il y avait écrit, en parlant des Palestiniens, « Tuez-les tous ».
Voilà. Alors, le quotidien, donc, dans cet article, Ilan Pappé dit « Le quotidien USA Today a rapporté qu'une photo était devenue virale. C'était une tour en Ukraine touchée par un bombardement russe. En fait, après vérification, il s'est avéré que c'était une tour de la bande de Gaza qui a été démolie par l'armée israélienne, pas très longtemps, en mai 2021. » Depuis, j'ai vu passer un autre fake, une photo de Ahed Tamimi giflant un soldat israélien. Tout ça avait été cité comme une jeune ukrainienne giflant un soldat russe. Alors en fait, pourquoi les gens peuvent se permettre ce genre de truc? En fait, Ahed Tamimi est une blonde, ce qui permet de l'assimiler à une occidentale. Alors si ça, ce n'est pas du racisme, c'est... voilà. Quelques jours auparavant, le ministre ukrainien des Affaires étrangères s'était plaint à l'ambassadeur israélien à Kiev « Vous nous traitez comme Gaza ». Il était furieux qu'Israël ne condamne pas l'invasion russe et ne s'intéresse qu'à l'expulsion des citoyens israéliens de l'État. Donc, ça, c'était dans Haaretz en février 2022. Il s'agissait en fait d'un mélange de références à l'expulsion par l'Ukraine des épouses ukrainiennes d'hommes palestiniens de la bande de Gaza en mai 2021, ainsi que d'un rappel à Israël du soutien inconditionnel du président ukrainien à l'assaut israélien sur la bande de Gaza ce mois-là. Donc l'Ukraine soutient les sionistes et soutient complètement les Israéliens quand ils attaquent, quand ils tuent des civils dans la bande de Gaza.
Oui, c'est une très mauvaise nouvelle qu'un pays agressé donne un blanc-seing à celui qui en agresse un autre.
Tout à fait. Les attaques d'Israël contre Gaza devraient en effet être mentionnées et prises en compte dans l'évaluation de la crise actuelle en Ukraine. Ce n'est pas un hasard si les photos sont confondues. Il n'y a pas beaucoup de gratte-ciel qui ont été renversés en Ukraine, mais il y a une abondance de gratte-ciel en ruine dans la bande de Gaza. Ce n'est pas seulement l'hypocrisie à l'égard de la Palestine qui apparaît lorsque l'on considère la crise ukrainienne dans un contexte plus large. Il faut examiner l'ensemble des doubles standards occidentaux sans être, bien entendu, indifférent aux nouvelles et aux images qui nous parviennent de la zone de guerre en Ukraine. Des enfants traumatisés, des flux de réfugiés, des vues d'immeubles détruits par les bombardements et le danger imminent que ce ne soit que le début d'une catastrophe humaine au cœur de l'Europe. Dans le même temps, ceux d'entre nous qui vivent, rapportent et débattent sur les catastrophes humaines en Palestine ne peuvent échapper à l'hypocrisie de l'Occident. Et nous pouvons la souligner sans minimiser un seul instant notre solidarité humaine et notre empathie envers les victimes de toute guerre. C'est un impératif, car la malhonnêteté morale qui sous-tend l'attitude adoptée par les élites politiques et les médias occidentaux leur permettra une fois de plus de masquer leur propre racisme et leur impunité, tout comme elle continuera à fournir une immunité à Israël et à son oppression des Palestiniens. Donc, Ilan Pappé détecte quatre assertions au cœur de l'engagement occidental dans la crise ukrainienne, et il en a fait des leçons.
Voilà. Alors, voilà. Et donc, la leçon qui suit s'intitule « Les réfugiés blancs de peau sont les bienvenus, les autres le sont moins ». La décision collective, sans précédent, de l'UE d'ouvrir ses frontières aux réfugiés ukrainiens, suivie d'une politique plus réservée de la Grande-Bretagne, oui, les Iliens sont toujours très réservés, c'est sûr, ne peut passer inaperçue en comparaison de la fermeture de la plupart des portes européennes aux réfugiés venus du monde arabe et d'Afrique depuis 2015. La hiérarchisation raciste évidente, distinguant ceux qui cherchent à sauver leur vie sur la base de la couleur, de la religion et de l'ethnie, est carrément odieuse. Mais il est peu probable que cela change rapidement. Certains dirigeants européens n'ont même pas honte d'afficher publiquement leur racisme, comme le fait le Premier ministre bulgare, Kirill Petkov. Ils, les réfugiés ukrainiens, ne sont pas les réfugiés auxquels nous sommes habitués. Ces gens sont des Européens, ces gens sont intelligents, ils sont éduqués. Ce n'est pas la vague de réfugiés à laquelle nous sommes habitués. Des gens dont nous n'étions pas sûrs de l'identité, des gens au passé peu clair, qui auraient même pu être des terroristes. Il n'est pas le seul. Les médias occidentaux parlent sans cesse de réfugiés de notre type. Et ce racisme se manifeste clairement au poste frontière entre l'Ukraine et ses voisins européens. Cette attitude, qualifiée de raciste, n'ayant pas peur, au fort relent islamophobe, n'est pas prête de changer, puisque les dirigeants européens continuent de nier les tissus multiethniques et multiculturels des sociétés de tout le continent. Il s'agit d'une réalité humaine créée par des années de colonialisme et d'impérialisme européen, que les gouvernements européens actuels nient et ignorent, tout en poursuivant des politiques d'immigration fondées sur le même racisme qui a imprégné le colonialisme et l'impérialisme du passé.
Voilà. On peut rappeler qu'en 2017, Emmanuel Macron avait qualifié la colonisation
le crime de guerre.
Comme un crime contre
l'humanité. Oui. Voilà. Oui, mais c'est comme ils disent maintenant, vous comprenez, il ne faut pas, cherchez pas des embrouilles. C'est des discours de campagne.
Voilà.
C'est fait pour la campagne. Ouais. Après, vous voyez, ça change une fois qu'on est...
On est confronté aux réalités.
Et voilà, oui, ça, il était un peu hors sol. Hein. Ouais. Ah, non, non.
Donc, deuxième leçon que nous fait Ilan Pappé dans son article. Leçon 2, vous pouvez envahir l'Irak, mais pas l'Ukraine. Le refus des médias occidentaux de replacer la décision russe d'envahir le pays dans le contexte d'une analyse plus large et évidente de la manière dont les règles du jeu international ont changé en 2003 est assez déconcertant. Il est difficile de trouver une analyse qui souligne le fait que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont violé le droit international relatif à la souveraineté d'un État lorsque leurs armées, avec une coalition de pays occidentaux, ont envahi l'Afghanistan et l'Irak. L'occupation d'un pays entier à des fins politiques n'a pas été inventée au cours de ce siècle par Vladimir Poutine. Elle a été introduite comme un outil politique justifié par l'Occident. C'est ce que tu disais tout à l'heure dans la parole de Noam Chomsky.
Noam Chomsky, oui. Voilà. Mais quand même, il y a deux situations qui sont à peu près aussi pourries l'une que l'autre. Hein. Celle des Américains justifiant leur intervention en Irak, avec Collins en train de secouer son petit flacon
d'armes de destruction massive.
Et Poutine disant que là où il y a des Russes, au fond, la Russie a le droit de s'étendre pour en faire des citoyens russes de Russie, et non pas des Russes qui habitent un pays balte ou qui habiteraient l'Ukraine, puisque tous les Russes qui sont en Ukraine ne sont pas avec Poutine. C'est ça qui...
Tout à fait. Voilà. Non, mais il y en aura peut-être de moins en moins avec ce qui se
oui,
passe,
c'est évident. Oui, mais ceux du Donbass, il faut savoir quand même qu'en 2014, c'est quand même pas très très récent, ça commence à faire quelques années, ils ont déclaré leur indépendance, le Donbass, en créant cette république autoproclamée, et Poutine a applaudi. Je veux dire, c'est aussi minable.
Mais il y a quand même
pour se justifier que ce qu'ont fait les Américains.
Après, bon, moi je suis persuadé que la guerre étant une guerre de propagande, quand on regarde les informations qui circulent, que ce soit d'un côté ou de l'autre, je suis pas sûr que les Russes mentent plus que les Américains ou réciproquement.
Non,
ou que les Occidentaux.
C'était à égalité tout ça.
Et donc aujourd'hui, on parle quand même entre 2014 et 2022, de 14 000 morts dans ces républiques du Donbass, justement, parce que l'Ukraine a refusé d'appliquer les accords de Minsk, et ils ont envoyé des troupes appuyées en cela par la CIA. Alors après, c'est quoi la vérité? Mais je suis persuadé que la vérité, elle n'est pas d'un côté ou de l'autre. De toute façon, quand on fait la guerre, on ne peut qu'avoir tort. Ce n'est pas possible autrement, parce que quand on regarde toutes les misères qu'il y a après...
Tout le monde, pour être sûr d'avoir raison quand il fait la guerre, commence par fermer tous les écrans, toutes les radios, tous les téléphones, et de dire, voilà, si vous voulez savoir quelque chose, vous vous adressez à moi.
Chez nous, ce n'est même pas la peine, parce que les journalistes s'auto-censurent. Est-ce qu'on entend beaucoup parler d'Israël et de la Palestine sur les radios mainstream et les télés mainstream?
Je suis désespéré que le rapport de Amnesty International n'est pas encore fait. Ils en ont parlé quand ça a été signé, parce qu'en plus ça a été publié à Jérusalem, donc ça, c'était un événement. C'était mieux que de le montrer à Strasbourg ou à Bruxelles. Mais la suite, personne, aucune radio mainstream ou même petite ne s'est emparée de ce truc pour dire on va débattre.
Personne. Donc c'est pour ça que je dis qu'effectivement, les journalistes occidentaux, pour moi, ils s'auto-censurent, ou alors ils sont persuadés s'ils sont persuadés d'avoir raison dans leur façon de fonctionner,
non,
c'est encore pire.
Je pense quand même que Israël a marqué des gros points dans la mesure où non seulement les présidents vont au repas du CRIF, mais là, il y va en disant...
On reconnaît Jérusalem
comme... capitale éternelle d'Israël. Bon, donc ça s'aggrave chaque année.
Ouais. C'est pas aussi contre le droit international.
Mais c'est monstrueux, monstrueux, mais ça passe comme une lettre à la poste. Oui. Et l'autocensure, ma foi, ces gens ont très très peur, parce qu'en France, le système médiatique est complètement s'autocensure.
Verrouillé.
Oui, par rapport à ça, mais moi je crois que le CRIF est celui qui fait peur à tout le monde. Ouais. Il fait tellement peur au président que depuis Sarkozy, ils vont tous au repas du CRIF, et que là, cette année, c'est Castex qui est allé, et il a fait cette déclaration absolument ahurissante.
Scandaleuse. Voilà. Bon, donc, voilà, je te laisse continuer.
Alors, leçon 2.
3.
3, pardon. Leçon 3, le néonazisme peut parfois être toléré.
Alors, je vous rappelle quand même que c'est écrit par un historien israélien internationalement reconnu.
Hein. Oui, on n'a pas fait ça cette nuit, tous les deux, en catimini. Oui. L'analyse ne met pas non plus en évidence certains des arguments de Poutine à prendre en considération concernant l'Ukraine, qui ne justifie en aucun cas l'invasion, mais qui nécessite notre attention même pendant l'invasion. Jusqu'à la crise actuelle, les médias occidentaux, considérés comme assez progressistes, tels que The Nation, The Guardian, le Washington Post, etc., nous ont mis en garde contre le pouvoir croissant des groupes néo-nazis en Ukraine, qui pourraient avoir un impact sur l'avenir de l'Europe et au-delà. Ces mêmes médias rejettent aujourd'hui l'importance du néo-nazisme en Ukraine. The Nation, en 2019, a rapporté aujourd'hui les rapports croissants sur la violence d'extrême droite, l'ultranationalisme et l'érosion des libertés fondamentales font mentir l'euphorie initiale de l'Occident. On assiste à des pogroms néo-nazis contre les Roms, à des attaques généralisées contre les féministes et les groupes LGBT, à des interdictions de livres et à la glorification des collaborateurs nazis par l'État. 2 ans plus tôt, le Washington Post avertissait avec beaucoup de perspicacité qu'un affrontement ukrainien avec la Russie ne devait pas nous permettre d'oublier la puissance du néonazisme en Ukraine. Alors que la lutte de l'Ukraine contre les séparatistes, soutenue par la Russie, se poursuit, Kiev fait face à une autre menace pour sa souveraineté à long terme. De puissants groupes ultranationalistes d'extrême droite, ces groupes n'hésitent pas à recourir à la violence pour atteindre leurs objectifs, qui sont certainement en contradiction avec la démocratie tolérante tournée vers l'Occident que Kiev cherche ostensiblement à devenir. Mais aujourd'hui, le Washington Post adopte une attitude dédaigneuse et qualifie une telle description de fausse accusation. Opérant en Ukraine, plusieurs groupes paramilitaires nationalistes, tels que le mouvement Azov et le secteur droit, épousent l'idéologie néo-nazie. Bien que très médiatisé, il semble bénéficier d'un faible soutien public. Un seul parti d'extrême droite, Svoboda, est représenté au Parlement ukrainien et ne détient qu'un siège. Les précédentes remises en garde de médias tels que The Hill, le plus grand site d'information indépendant des États-Unis, sont oubliées. Il existe bel et bien des formations néo-nazies en Ukraine. Cela a été confirmé de manière écrasante par presque tous les grands médias occidentaux. Le fait que les analystes soient capables de le rejeter comme la propagande diffusée par Moscou est profondément troublant. C'est d'autant plus inquiétant que l'on assiste actuellement à une montée en puissance des néo-nazis et des suprémacistes blancs dans le monde entier. Alors là, je crois quand même que la barque est bien chargée, parce que Madame Ackermann, qui est politologue et qui intervient fréquemment à la radio et qui dit des choses très justes, elle dit, elle, que c'est minoritaire, extrêmement minoritaire.
C'est peut-être minoritaire par rapport au soutien, comme c'est dit dans le soutien de la population.
Non, mais c'est pour ça que ça permet quand même à Poutine d'oser dire, à mon avis, parce que là, il n'a aucun contrôle là-dessus. Mmh. On va dénazifier l'Ukraine. Je crois que là, c'est un tout petit peu trop quand même. Parce que ce qu'on a vu, ce président, moi, il m'est plutôt sympathique dans la mesure où, quand il était comédien, il faisait président.
Oui.
Et il s'est fait élire comme président en étant comédien. Eh bien, ça respire quand même pas mal quand il intervient, rien que pour l'espèce d'icône qu'il devient, tu vois. C'est-à-dire, il se met pas en costume-cravate, il se met un peu en tenue, on peut dire, entre guillemets, de combat.
Il sait jouer des médias.
Oui, ben voilà. Oui, mais ça, si on ne tient pas compte de ça, si on préfère les informations à la Corée du Nord, eh bien, on a perdu.
Non, mais... Voilà. Il a quand même, il a, je ne sais pas, une société de production qui était avec un associé qui était lié à des groupes néo-nazis aussi. Il y a eu les Pandora Papers, il a été élu pour arrêter la corruption. Dans les Pandora Papers, il est sorti des choses comme quoi il avait favorisé l'enrichissement de certains de ses proches, dont il s'était entouré d'ailleurs, hein, un peu comme dans la série où... Après, c'est toujours pareil. On ne sait pas où est la propagande. On n'a pas, il faudra attendre que des historiens s'en emparent. Pour savoir exactement où on en est, qu'est-ce que c'est qui est vraiment de la réalité.
Non, mais sur le moment où ça se passe, c'est vrai que lui, il la joue bien, tu comprends ?
Ah oui,
il la joue très bien, parce qu'il se fait filmer dans des lieux que tout le monde connaît, il est entouré de proches ou tout seul, et il délivre un discours qui implore les États-Unis
d'attaquer la Russie.
Non, pas d'attaquer la Russie.
C'est ce qu'il a dit en demandant
l'exclusion aérienne.
Mais ça veut dire que l'OTAN va attaquer la Russie. C'est aussi une déclaration de guerre. Donc ça veut dire... la guerre européenne, on l'aura pour de bon. Donc c'est un va-t-en-guerre, ce mec-là.
Il ne t'a pas échappé qu'il n'est pas le seul à avoir dit que nous avons l'arme nucléaire, a rappelé Poutine. Le Drian a dit, mais l'Union européenne aussi est une force nucléaire.
Mais il faut savoir que l'Ukraine, c'est pareil, parce qu'ils ont les restes de ce qu'il y avait en Russie, en URSS.
Il leur reste à...
Voilà,
à
et ils ont les compétences aussi. Mm. Bon, enfin, voilà. Donc, la leçon 4 de Ilan Pappé, c'est « Frapper des gratte-ciels est un crime de guerre uniquement si cela se produit en Europe. À Gaza, pas de problème. » L'establishment ukrainien n'a pas seulement un lien avec ses groupes et armées néo-nazis, il est également pro-israélien de manière inquiétante et très troublante. Un peu comme le président hongrois, etc. Les Polonais aussi. L'une des premières décisions de Volodymyr Zelensky a été de retirer l'Ukraine du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Le seul tribunal international qui veille à ce que la Nakba ne soit pas niée ou oubliée. Pour moi, ça, il est hors jeu, quoi, Zelensky, il a fait ça.
C'est une disqualification immédiate, c'est sûr.
Et cette décision donc, avait été prise à l'initiative du président ukrainien. Il n'avait aucune sympathie pour le sort des réfugiés palestiniens et ne les considérait pas comme des victimes d'un quelconque crime. Dans ses interviews après le dernier bombardement israélien barbare de la bande de Gaza en mai 2021, il a déclaré que la seule tragédie à Gaza était celle subie par les Israéliens. Si c'est le cas, alors on pourrait dire que ce sont uniquement les Russes qui souffrent en Ukraine. Zelensky n'est cependant pas le seul. Lorsqu'il s'agit de la Palestine, l'hypocrisie atteint un nouveau niveau. Une frappe contre une tour vide en Ukraine a fait la une des journaux et a suscité une analyse approfondie de la brutalité humaine de Poutine et de l'inhumanité.
Oui, mais tu remarques que Poutine et les Russes jouent un peu le même jeu qu'Israël. Non, mais c'est-à-dire qu'ils sont les victimes.
Oui.
Donc c'est toujours ça qui est vraiment un peu hallucinant, c'est que les agresseurs se transforment en victimes et disent « Non, 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 regardez, hein, c'est pas ça, hein, non, c'est pas nous, c'est les autres. »
Non, mais là, on parle quand même d'action de Zelensky, etc., vis-à-vis d'Israël. On parle de la Palestine. Il n'a pas soutenu les Palestiniens. Et maintenant, il veut qu'on soutienne ces réfugiés. Alors, il faut faire quelque chose pour ces réfugiés. Mais, franchement, il aurait pu anticiper peut-être, hein. Voilà. Ces bombardements doivent être condamnés, bien sûr. Il parle des Russes sur l'Ukraine. Mais il semble que ceux qui mènent à la condamnation parmi les dirigeants du monde sont restés silencieux lorsqu'Israël a rasé la ville de Jenin en 2000, le quartier Al-Dahaya de Beyrouth en 2006 et la ville de Gaza dans une vague brutale après l'autre, l'une après l'autre, au cours des 15 dernières années. Aucune sanction n'a été mise sur la table et encore moins imposée à Israël pour ses crimes de guerre en 1948 et depuis lors. Je rappelle toujours, c'est un historien israélien qui raconte ça. En fait, dans la plupart des pays occidentaux qui mènent une campagne de sanctions contre la Russie, le simple fait de mentionner la possibilité d'imposer des sanctions contre Israël est illégal et automatiquement on est qualifié d'antisémite. On le voit bien quand on fait des manifestations contre l'attitude israélienne. Même lorsque la véritable solidarité humaine de l'Occident s'exprime à juste titre avec l'Ukraine, nous ne pouvons ignorer son contexte raciste et son parti pris eurocentrique. La solidarité massive de l'Occident est réservée à quiconque est prêt à rejoindre son bloc et sa sphère d'influence. Cette empathie officielle n'est nulle part présente lorsque des violences similaires et pires même encore sont exercées contre les non-européens en général et contre les Palestiniens en particulier. En tant que personnes de conscience, nous pouvons passer de nos réactions aux calamités à la responsabilité de dénoncer l'hypocrisie qui, à bien des égards, a ouvert la voie à de telles catastrophes. Légitimer au niveau international l'invasion de pays souverains et autoriser la poursuite de la colonisation et l'oppression d'autres pays, comme la Palestine et son peuple, conduira à l'avenir et partout sur notre planète à d'autres tragédies, comme celle de l'Ukraine. Donc voilà ce qu'un historien israélien raconte à propos du traitement, le deux poids deux mesures, donc le traitement qui est appliqué à l'Ukraine et à la Russie par rapport à la Palestine et Israël. Alors on va passer à un autre morceau de musique, toujours des mêmes auteurs. Voilà.
اشعل اشعل هالعجل اضرب مولوتوف ثبت مداريس اضرب مولوتوف ثبت مداريس ثورة قامت ثورة قامت ثورة ما بتنضب ثورة قامت ثورة قامت ثورة ما بتنضب ثورة قامت ثورة قامت ثورة ما بتنضب الشعب شاهد عمال وفلاح ما بتنضب ثورة قامت ثورة قامت ثورة ما بتنضب ثورة قامت ثورة قامت ثورة ما بتنضب شعب شاهد عمال وفلاح ما بتنضب ثورة قامت ثورة قامت ثورة ما بتنضب ثورة قامت ثورة قامت ثورة ما بتنضب الشعب شاهد عمال وفلاح ما بتنضب ارفع ارفع هالعلم وامسح دموع الألم ارفع ارفع هالعلم وامسح دموع الألم ابني وشيت وزرع عمل جديد ابني وشيت وزرع عمل جديد ثورة قامت ثورة قامت ثورة ما بتنضب ثورة قامت ثورة قامت ثورة ما بتنضب ثورة قامت ثورة قامت ثورة ما بتنضب الشعب شاهد عمال وفلاح ما بتنضب
On reprend notre discussion. Donc, j'ai trouvé dans chroniquepalestine.com un article de Ramzi Baroud. La prochaine étape de la lutte anti-apartheid sera la plus difficile. Alors, Ramzi Baroud, c'est un journaliste, auteur et rédacteur en chef de Palestine Chronicle. Alors, je te laisse.
Alors, il rapporte, il fait un long papier sur l'Afrique du Sud. Et alors, il dit, lorsque Nelson Mandela a été libéré de sa prison de Robben Island, le 11 février 1991, ma famille, mes amis et mes voisins ont suivi l'événement avec un vif intérêt, alors qu'ils étaient réunis dans le séjour de mon ancienne maison du camp de réfugiés de Nusayra, dans la bande de Gaza. Cette scène émouvante s'est déroulée des années avant que Mandela ne prononce sa phrase célèbre « Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens ». Pour nous, Palestiniens, Mandela n'avait pas besoin de réaffirmer la solidarité du peuple sud-africain avec la Palestine, quelle que soit la formule employée, car nous le savions déjà. L'émotion ressentie était forte ce jour-là. Des larmes ont été versées. Des supplications ont été adressées à Allah pour que la Palestine soit bientôt libre, elle aussi. Tous les présents ont murmuré « Inch'Allah, si Dieu le veut », avec un optimisme sans précédent. Bien que 3 décennies se soient écoulées, sans atteindre cette liberté tant convoitée, quelque chose est enfin en train de changer pour le mouvement de libération de la Palestine. Toute une génération de militants palestiniens qui ont grandi ou sont même nés après la libération de Mandela, a été influencée par ce moment important. La libération de Nelson Mandela est le début du démantèlement officiel du régime raciste d'apartheid d'Afrique du Sud. Même la signature des accords d'Oslo en 1993 entre Israël et certains responsables de l'OLP, qui a constitué une fracture majeure dans le mouvement de libération populaire en Palestine, n'a pas complètement mis fin à ce qui est finalement devenu une lutte anti-israélienne résolue contre l'apartheid en Palestine. Oslo, le prétendu « processus de paix », entre guillemets, et la désastreuse coordination de la sécurité, également entre guillemets, entre l'autorité palestinienne et Israël, ont fait dérailler les énergies palestiniennes, ont fait perdre du temps, ont approfondi les divisions entre les organisations et ont semé la confusion chez les partisans palestiniens à travers le monde. Mais heureusement, sans occuper tous les espaces politiques disponibles pour l'expression et la mobilisation des Palestiniens. Avec le temps, et en fait peu après sa création en 1994, les Palestiniens ont commencé à réaliser que l'autorité palestinienne n'était pas une plateforme de libération, mais un obstacle à celle-ci. Une nouvelle génération de Palestiniens tente aujourd'hui de définir un nouveau discours de libération basé sur l'inclusion, le militantisme de base et communautaire, soutenu par un mouvement de solidarité en pleine expansion à l'échelle mondiale. Les événements dramatiques du mois de mai de l'année dernière, les manifestations de masse dans toute la Palestine occupée et la guerre israélienne contre Gaza, qui s'en est suivie, ont mis en lumière le rôle de la jeunesse palestinienne, qui, grâce à une coordination élaborée, une campagne ininterrompue et l'utilisation des plateformes des médias sociaux, a réussi à présenter la lutte palestinienne sous un jour nouveau, débarrassée du langage archaïque de l'autorité palestinienne et de ses dirigeants kakochim. Elle a également dépassé dans sa pensée collective tous les discours des mobilisateurs concernant les organisations et leur approche auto-centrée. Et le monde a réagi comme il le devait. Malgré une puissante machine de propagande israélienne, des campagnes Hasbara coûteuses et un soutien quasi total à Israël de la part des pouvoirs occidentaux et des médias dominants, la sympathie pour les Palestiniens a atteint un niveau record.
Bon, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Donc, on a beaucoup parlé de l'Ukraine, mais vous avez compris qu'en fait, ce qui nous intéressait dans le conflit avec l'Ukraine, non pas qu'on ne soit pas en accord avec les réfugiés, hein, bien entendu, mais ce qui nous intéresse, c'est le deux poids, deux mesures, hein, c'est important de dire ça, entre la façon de traiter le problème ukrainien aujourd'hui et la façon dont on a traité les réfugiés afghans, irakiens, etc., africains. et ce qui a été fait aussi oui, mais par rapport à
surtout
Gaza.
La négation de la question palestinienne.
Tout à fait.
Ça, c'est quand même gonflé parce que je me souviens qu'en 2014, à peu près, Hollande, interrogé, avait fait cette réponse. Moi, j'étais complètement estomaqué. Il avait dit, alors qu'il tapait sur Israël... Israël a bien le droit de se défendre.
Ah oui, non, mais
voilà.
Ça, oui.
Alors, tu envoies des fléchettes sur Israël, tu te prends des bombes monstrueuses qui te dégomment des immeubles entiers, mais tu as le droit de te défendre. Oui, voilà, oui. Mais tu vois, là, il y a une idée de hors de la réalité, mais en même temps du mensonge organisé comme argument.
Israël est considéré comme un pays occidental au même titre que l'Ukraine, même s'ils ne sont pas du tout dans la même situation aujourd'hui. Dans un cas, l'un est l'agressé, dans l'autre cas, l'autre est l'agresseur. Israël est un agresseur et l'Ukraine est agressée. Voilà, bon, arrêter là-dessus en espérant que lors de notre prochaine revue de presse, cette guerre sera terminée d'une façon ou d'une autre. Bon, peu sûr, mais enfin. Bien, bonne semaine, bonne fin de semaine et puis à très bientôt sur l'antenne de Radio Galère. Merci à tous.
Merci Sidi.
Merci.
Binti Chalabi.